Capital sur Radio Grand Ciel, proposé par Elisabeth Couget, présenté en collaboration avec Christine Lafota. Bonjour à nos auditeurs et à notre technicien bien-aimé Simon. Et bien sûr, bonjour Christine.
Bonjour Elisabeth.
Alors nos promenades dans les capitales du monde nous ont amenés quelquefois bien loin de la France. Mais aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir ou redécouvrir la capitale d'un pays qui, dans les dernières décennies, est devenue une des destinations phares de vacances en Europe.
Et nous partons aujourd'hui donc pour la Croatie et nous allons visiter sa capitale, Zagreb.
Alors Christine, as-tu déjà vu la forme géographique de la Croatie sur une carte?
En tout cas, ce n'est pas la forme d'une botte comme l'Italie, je pense.
Pas du tout. Alors, si tu l'as vu, tu as pu remarquer que ce pays forme une sorte de V au bord déchiqueté entre la Slovénie, la Hongrie, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et bien sûr la mer Adriatique.
Donc, extrêmement découpé. Et alors, sa topographie, parle-nous.
Alors, on peut parler d'une superficie d'environ 56 000 km² où 4 300 000 habitants vivent répartis dans les reliefs montagneux, sur les bords de la plaine pannonienne et sur la côte de la mer Adriatique.
Et donc ça fait à peine 75 personnes par km².
Exactement, et ce n'est pas un pays vraiment peuplé. Hein.
Pas du tout. Et, donc, et sa capitale?
Alors on peut dire de la capitale qu'elle est nettement plus petite que ses consœurs européennes, avec toutefois quelques 800 000 habitants. C'est une très jolie ville typique d'Europe centrale. Mmh. Qui se situe au cœur de la partie continentale de la Croatie, entre les contreforts du mont Medvednica au nord et le cours de la rivière Save au sud. Des forêts et des parcs l'entourent et bien que pôle politique, économique et culturel du pays depuis des siècles, elle n'a acquis le statut de capitale qu'en 1991.
C'est-à-dire à l'éclatement de la Yougoslavie.
Exactement, il y a à peine un quart de siècle. Alors, selon le sociologue allemand Max Weber, la qualité de vie d'une ville se mesure au nombre de ses institutions culturelles.
Et je crois que de ce point de vue-là, Zagreb n'a vraiment pas à rougir.
Ah non, bien sûr, on y trouve plus de 20 musées, 10 théâtres, 50 bibliothèques, une université et un très grand nombre de salles de spectacle.
Ça, c'est le Zagreb du 21e siècle. Mais avant, c'était comment?
Alors avant toute chose, et il faut savoir que ce qu'est la Croatie d'aujourd'hui, en l'an 1000, faisait partie intégrale de la Hongrie du roi Saint-Étienne. Mmh. Vers la fin du XIe siècle, un évêché fut fondé là, où se trouve Zagreb, de nos jours. Suivi par la construction d'une cathédrale sur une des collines de la future capitale, nommée Kaptol. Alors, non loin de Kaptol, un bourg s'est établi sur l'autre colline de cette ville qui fut baptisée Gradec.
Mais au début du XIIIe siècle, on voit arriver les hordes destructrices de Gengis Khan qui passent par là.
Moi, je dirais Genghis Khan.
Ah oui, avec l'accent, oui.
Avec l'accent.
Gengis Khan aussi.
Ils sont passés par là, malheureusement, et la ville fut détruite, mais s'est révélée de ses cendres et s'est développée, car le roi de Hongrie, Béla le IV, lui accorda le statut de cité libre et l'autorisation de se fortifier pour se protéger.
Oui. Et je suppose que, comme dans tous les pays d'Europe centrale, après les Mongols, c'était la menace des Turcs.
Exactement. Et il y a beaucoup de similitudes entre l'histoire de tous ces pays, par leur situation géographique, bien sûr. Et pour protéger la Croatie des Turcs, le roi Matthias Corvin, toujours le roi hongrois, ordonna la construction de murailles de protection autour de Kaptol aussi.
Voilà, donc si je comprends bien, il y avait deux villes bien séparées, là où aujourd'hui on trouve le Zagreb, la capitale de nos jours.
Exactement, deux villes séparées et concurrentes sur les deux collines voisines, et le tout partagé par une rivière au milieu dont je vous fais grâce du nom, c'est vraiment difficile à prononcer.
Concurrentes, d'accord, mais non conflictuelles quand même.
Mais si, hélas, et d'ailleurs le Kvari Most, ou le pont sanglant, Most,
comme le pont en russe.
Voilà, ouais, dans les langues slaves. Pont sanglant, situé sur la rivière entre les deux collines, on entretient toujours le souvenir des légendes, parce qu'ils sont vraiment entretués là. Hein. C'est bien pour ça qu'on l'appelle pont sanglant. En 1621, le gouverneur de la Croatie, autrement dit le Ban, nommé par le roi de Hongrie, va s'y installer. Et grâce à sa présence, la ville se développera et vivra relativement calmement jusqu'en 1880 où un terrible tremblement de terre frappe et détruit Zagreb.
Complètement ?
Ah oui. Après sa reconstruction, la ville va prendre un nouveau visage, assez proche de ce que nous voyons aujourd'hui. On verra plus tard, la majorité des bâtiments datent de la fin du 19e siècle.
Et cela surtout, enfin, ce nouveau visage grâce à, au paysagiste italien Mila Lenucci qui va aménager parcs et espaces verts.
Exactement, et en grand nombre. Et n'oublions pas Hermann Bolle, architecte de nombreux monuments, dont la cathédrale, qui a été reconstruite en style néo-gothique. Alors voilà, je crois que le décor de notre voyage d'aujourd'hui est planté. On va pouvoir commencer notre promenade.
Mais seulement après une pause musicale. Qu'est-ce que tu proposes ?
Alors, je propose une musique croate, bien sûr. Et je voudrais vous en dire un petit mot. Alors, le chanteur croate que je vais vous faire découvrir aujourd'hui dans nos pauses musicales s'appelle Darko Rundek, qui, comme beaucoup d'artistes et intellectuels, s'est exilé de son pays dans les années 90, pendant la guerre, quand la Yougoslavie s'est effondrée. Il a quitté Zagreb pour la banlieue parisienne. Dans l'ancienne Yougoslavie, Darko Rundek, chanteur du légendaire groupe New Wave, était l'idole d'une génération entière. Ses textes poétiques étaient sur toutes les lèvres. En exil en France, il a dû tout recommencer à zéro. Il a formé un groupe nommé Cargo Orchestar, une fusion de rescapés de tous les coins des Balkans et d'ailleurs qui ont connu un parcours similaire. Ce n'est pas par hasard si le nom du groupe se réfère à un bateau de marchandises qui transporte une charge inconnue d'influence par-delà des frontières.
Ça promet.
Alors, écoutons un premier morceau de Darko Rundek et de son Cargo Orchestra avant de continuer notre promenade
cargo
dans Zagreb. Dans les studios de Radio Grand Ciel, avec devant nous un joli but de promenade dans la capitale croate, Zagreb.
Et avant cette pause musicale, nous avons brièvement évoqué l'histoire de Zagreb, somme toute assez méconnue.
Alors justement, pour mieux la connaître et comprendre, il fallait connaître son histoire même d'une façon très courte. Alors on revient à nos deux collines qui formaient la ville, avec Gradec et Kaptol à leur sommet. Aujourd'hui, est considérée comme la vieille ville.
et s'appelle en croate Gorni, Gornigrad.
Ah, bah, bravo Christine, ou la haute ville. Alors, elle abrite les grands centres politiques, administratifs et religieux du pays. En contrebas, dans la plaine, se trouve la ville basse.
Ou Donigrad.
Vraiment, tu vas être perfecte croate bientôt, Christine, bravo.
Grad, c'est ville.
Oui, c'est ça. Alors, Kriaou, même château fort. Enfin, qui a pris son visage actuel après le tremblement de terre de 1880. Des espaces verts et le jardin botanique qui forment une sorte de fer à cheval entourant les différentes institutions culturelles. Ces deux quartiers sont séparés par la place du Bani Jelačić, ce qui est le véritable cœur de la capitale croate.
Avec de nombreux cafés, restaurants, magasins, toutes sortes de choses qui rendent cette ville très vivante.
Exactement, et où la vie est très agréable.
Alors, par où allons-nous commencer cette visite de Zagreb ? Par la haute ou par la basse ville ?
Alors, commençons par la haute et découvrons la cathédrale et le quartier de Kaptol, qui fut la première construction de la ville. Bien sûr, je ne veux pas parler de cette cathédrale de l'Assomption de la Vierge Marie rebâtie après le tremblement de terre, mais celle construite en 1094 par le roi hongrois Ladislas Ier, qui était sanctifié plus tard. Hélas, le passage des Mongols ne l'a pas épargnée non plus en 1242 et elle a été remplacée par une construction gothique dont une grande partie s'est écroulée en 1880, hélas.
Et elle a été reconstruite en style néo-gothique cette fois et elle contient, je crois, de nombreuses richesses dont une statue de Saint-Paul du XIIIe siècle.
Oui, ainsi que des effigies en bois sculpté de Saint-Pierre et de Saint-Paul du XVe siècle, un triptyque de la Passion de la même époque, peint par Albrecht Dürer, n'est-ce pas ? Et aussi une crucifixion de Giovanni da Udine. Il y a aussi de magnifiques fresques à la manière du Giotto du XIIe siècle dans la sacristie.
Et une très riche collection d'art sacré, entre autres choses.
Alors, sur la place de la cathédrale se trouve la plus vieille construction intacte de Zagreb. Il s'agit du palais épiscopal, dont les bases s'appuient sur les fortifications élevées en 1469, ordonnées par le roi Matthias Corvin, dont on a parlé tout à l'heure, pour repousser les attaques des Turcs. Le bâtiment actuel date de 1730, mais il renferme une chapelle romane du XIIIe siècle consacrée à Saint-Étienne, encore premier roi chrétien des Hongrois. Et ces fresques du XIVe siècle sont somptueuses. Les remparts dont le salut de Zagreb dépendait si longtemps ont été pour une grande partie démantelés au XIXe siècle.
Et les fossés sont devenus un jardin public. Et il y a d'autres églises, bien sûr, comme l'église Saint-François ou l'église Sainte-Marie, toutes rebâties après le tremblement de terre de 1880.
Alors c'est sur la colline voisine, où l'ancienne cité féodale forme l'autre pôle de la ville haute, que nous continuerons notre promenade.
Il s'agit de Gradec ou Gradec plutôt, n'est-ce pas ?
Gradec.
Gradec, voilà, c'est ici, qui était fortifié tout comme Kaptol.
Oui, c'est ça. À Gradec que vivait le représentant du roi hongrois le Ban, et comme Gradec était une ville libre depuis le XIIIe siècle, elle a dû se protéger, se fortifier et elle s'est enrichie.
Elle avait des murailles importantes ?
Oui, tout à fait. Et 5 portes y étaient percées.
Qui sont intactes ?
Ah non, non, non. Il ne reste qu'une, qui s'appelle le Kameni Tavrata, ou la porte de pierre. Elle date du XIIIe siècle et qui garde, malgré une incendie très destructive au XVIIIe siècle, une peinture de la Vierge à l'enfant abritée dans une toute petite chapelle votive, le tout protégé par une grille en fer forgé.
Ça doit être très joli. Et c'est à côté de cette porte de pierre, porte de pierre, Kameni Tavrata, que se trouve une célèbre pharmacie ouverte depuis 1350, la pharmacie Alighieri. Tiens, ça me rappelle quelque chose.
Exactement, Alighieri. Parce que le propriétaire n'était autre que l'arrière-petit-fils de Dante Alighieri, le grand auteur italien de la Divine Comédie, et qui a donc acheté la pharmacie en 1399.
Ah, ça remonte très loin. Et que visiterons-nous après avoir admiré la porte de pierre et la pharmacie Alighieri ?
Alors, entrons dans la ville et commençons peut-être par la visite du Parlement, construit il y a seulement un peu plus de 100 ans, mais très important dans l'histoire de la Croatie, car c'est de son balcon que fut annoncée sa séparation d'avec l'Empire austro-hongrois et c'est du même endroit que fut proclamée son indépendance en 1991, fermant ainsi une page de 9 siècles de son histoire.
Un balcon très important.
Absolument.
Et le palais du Ban, Il n'est pas très loin du Parlement, non?
Non, non, il est tout près. Il fut construit vers 1621, quand Zagreb est devenu le siège du gouverneur de la Croatie dans le royaume de Hongrie.
Et je crois qu'il a malheureusement été très endommagé par un bombardement en 1991.
Et oui, à peine 25 ans. Il a survécu jusque-là. Mais, voilà. Mais restauré maintenant, il abrite la présidence de la République, la Chambre des députés, le siège du gouvernement et la résidence du président de la République.
Il n'y a pas que des bâtiments administratifs dans cette haute ville. On y trouve aussi de nombreux musées et des églises.
Oui, exactement. Parlons peut-être d'abord des musées.
Et Elisabeth, comme tu adores l'histoire, je suppose que tu vas commencer par le musée national de l'histoire croate.
Oui, exactement, tu me connais bien. Ce musée à deux pas du palais du Ban est installé dans un bâtiment de style baroque du XVIIIe siècle, qui retrace l'histoire du peuple croate. Le musée couvre une période du haut Moyen-Âge à nos jours. Ses fleurons sont des objets liés au roi hongaro-croate et des cartes géographiques et historiques et différentes œuvres d'art datant du XVIe au XVIIIe siècle.
Une autre découverte toute possible, c'est le musée croate de l'histoire naturelle.
Ah oui, tout à fait, qui mérite une visite et qui se trouve dans l'ancien palais Amadeo. Cet édifice baroque a changé d'occupant, palais bien entendu d'abord, ensuite théâtre entre 1797 et 1834, et il est devenu musée de l'histoire naturelle en 1869. Mais c'est seulement depuis 1986, donc il y a à peine 30 ans, exactement, que le musée forme l'ensemble actuel. Le musée compte 2 500 000 pièces, donc il y a énormément de choses à découvrir. Bien sûr, tout n'est pas exposé.
Mais énorme, voilà, énorme.
Ça vaut le coup d'y retourner plusieurs fois.
Et tu peux peut-être aussi nous dire un mot du musée de la ville?
Oui, c'est un bâtiment assez surprenant parce que c'est la réunification d'un ancien couvent des Clarisses du XVIIe, d'une tour du XIIe et d'un entrepôt à grains du XVIIe siècle, où environ 4700 objets sont réunis pour nous présenter Zagreb à travers les âges.
Et avant de dire un mot sur les églises principales, on pourrait faire connaître à nos auditeurs l'un des plus importants sculpteurs du XXe siècle en Croatie.
Alors je pense que tu veux parler d'Ivan Meštrović, et tu m'as laissé le soin de prononcer son nom.
Oui, je préfère.
Dont la Pietà Romana est exposée au musée du Vatican. Entre 1922 et 1942, l'artiste a vécu et œuvré à Zagreb, mais il est mort aux États-Unis. Sa maison et son atelier, un ancien bâtiment du XVIIe siècle, se visitent et abritent désormais la fondation qui porte son nom. C'est aussi un joli but de visite dans la haute ville de Zagreb.
Ainsi que le musée national croate d'art naïf.
Alors ce qui depuis 50 ans se trouve dans le palais néo-baroque Raffaï. Les objets colorés, les peintures, les sculptures, etc. représentent parfaitement l'art paysan de la Croatie.
Et dis-moi Elisabeth, si ta montre s'arrêtait par hasard en Croatie, que ferais-tu ?
À Zagreb. Alors, je ferai comme les habitants de Zagreb.
C'est-à-dire, qu'est-ce qui...
En fait, ils s'arrêtent et ils attendent.
Ils attendaient les coups de
cloche. Ils attendaient le coup de canon.
Ah non, les coups de canon.
Tiré depuis la tour carrée de l'Orchak. Et là, ils règlent leur montre, car cela veut dire qu'il est midi pile. Cette tour du XIIIe siècle, dans le temps annoncé par une cloche, la fermeture des ports de la ville. Aujourd'hui, elle aide les gens qui ont perdu l'heure et elle abrite aussi une galerie d'art.
Et surtout, elle offre une très belle vue depuis son sommet.
Alors, la Croatie est un pays chrétien.
Catholique.
Et de nombreuses... catholiques, je dirais chrétien parce qu'il y a quand même des orthodoxes aussi.
D'accord.
Alors, il y a de nombreuses églises se trouvant aussi de ce côté-ci de la haute ville. Je voudrais vous en indiquer au moins deux. La plus ancienne est celle de Saint-Marc, mais qui a bien sûr subi de nombreuses transformations depuis le XIIIe siècle, où elle fut construite à l'emplacement d'une chapelle dévastée par les Mongols. Elle est devenue église paroissiale, elle est richement décorée, son portail est de style gothique et a été réalisé vers 1370 par un artiste de Prague.
Et l'autre église dont tu aimerais nous parler, c'est l'église Sainte-Catherine.
Exactement, ou Sveta Katarina, comme diraient les Croates, édifiée par les Jésuites sur le site d'un bâtiment dominicain. Considérée comme une des plus belles églises de Zagreb, les statues des quatre évangélistes encadrent le portail qui donne accès à sa nef unique et qui est décorée d'œuvres très intéressantes que je vous conseille de découvrir avant d'aller visiter la basse ville. Mais en attendant,
nous vous proposons une deuxième pause musicale avec cette fois-ci...
toujours notre musicien croate.
Et le groupe Cargo Orchestra. Ah.
Alors là, nous avons entendu Darko Rundek et son Cargo Orchestra dans leur langue, en croate. Et on entendait un petit peu l'influence de l'Autriche, des montagnes, avec cette musique-là qui nous rappelle effectivement les musiques autrichiennes. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas et donc c'est la même chose. Les gens, les paysans qui vivent là-haut, ils ont les mêmes styles de musique. Alors après cette page musicale, nous continuons notre promenade dans la capitale croate et découvrons dans la ville basse, la Donjigrad.
Et c'est le poumon vert de Zagreb, grâce à ses parcs, ses espaces verts et son jardin botanique.
Alors on ira s'y promener un peu plus tard, mais commençons par la place du maréchal Tito.
Qui était croate.
Exactement. Et cette place marque le début d'une série d'esplanades créées par un ingénieur paysagiste italien que nous avons déjà cité tout à l'heure.
Mila Lenucci.
Exactement. Et autour de ces esplanades, des bâtiments imposants se sont dressés et sont construits.
Comme par exemple le Théâtre National Croate.
Et oui, François Joseph a assisté à son inauguration en 1895. C'est un bâtiment néo-baroque à l'intérieur somptueusement décoré par des artistes viennois et croates. Devant le théâtre, ne manquez surtout pas d'admirer la Fontaine de la Vie, une des chefs-d'œuvre du sculpteur Meštrović.
Et ensuite, non loin de là, il faut visiter le musée des arts décoratifs.
Oui, absolument. Les plus de 3000 objets exposés couvrent une palette de styles allant du gothique au design de nos jours et offrent un réel panorama de l'évolution de la culture en Croatie et de sa relation avec le reste de l'Europe. Les collections nous offrent sur 3 étages un aperçu des arts décoratifs croates, européennes depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à nos jours.
Et en y allant, il ne faut pas manquer aussi la bibliothèque et ses 65 000 volumes consacrés aux arts décoratifs.
Exactement, qui est juste à côté. Le musée ethnographique est tout près d'ici. Il est installé dans un bâtiment d'art nouveau depuis 1919. Le musée ne présente qu'une infime partie de ses possessions, seulement 2800 objets sur 80 000 qui sont exposés. Il s'agit des bijoux en or, en argent, des broderies, des vêtements, des outils de travail, etc., qui offrent une large aperçu des cultures populaires européennes, africaines, orientales, ou de l'Océanie, ou même de l'Amérique du Sud.
Et cet autre musée, le musée de Miramar, qu'en penses-tu ?
Quel joli nom, hein ? Je pense Miramar, qu'il mérite que l'on s'y arrête pour voir la collection d'objets d'art de toutes les époques, réunis par un seul homme, qui s'appelait Ante Topić Miramar.
D'où le nom du musée.
Exactement, alors, et qui occupe un immense bâtiment néo-renaissance datant de 1895, où de nombreuses œuvres offrent aux visiteurs, dans un ordre chronologique, une sélection d'objets de peinture exceptionnelle.
Et on peut également voir des œuvres des maîtres anciens.
Oui, absolument. Il n'y a pas que des choses locaux, mais effectivement, des peintures qui viennent de partout. Sans aucun doute, il faut découvrir la galerie Strossmayer. C'est un beau bâtiment de style néo-renaissance qui entoure une cour carrée, bordée d'arcades. À l'intérieur, dans 9 salles, des centaines de peintures appartenant aux principales écoles européennes du XIVe au XIXe siècle sont exposées. Le musée porte le nom de Josip Strossmayer, riche et puissant évêque, qui a ordonné la construction de ce bâtiment en 1880, bien sûr après le tremblement de terre, auquel il a fait don de sa propre collection.
Et il y a encore d'autres musées, mais je crois qu'après tous ces musées, nous aurions besoin de nous promener, de prendre un petit peu l'air.
Exactement, et on n'a que l'embarras du choix. Mais commençons, après avoir mis de bonnes chaussures de marche, par le parc Maksimir, qui doit être le plus ancien car il date de la fin du XVIIIe siècle et a été emménagé dans une forêt de chênes centenaires. C'est le plus vaste parc de Zagreb. Il s'étend sur plus de 3 km carrés, paysager à l'anglaise. On y trouve des bosquets, des pelouses, des plans d'eau, un belvédère.
Et même un chalet suisse.
Ah oui, tout à fait.
Et si après ce parc, on aspire encore au calme?
Eh bien, n'oubliez pas de visiter le magnifique cimetière Mirogoï.
C'est très calme, là, c'est sûr.
Ah, tout à fait.
Alors, c'est loin du centre-ville?
Non, pas tellement, mais quand même, il y a 4 km de la place du maréchal Tito. Et ça va au pied de la Medvednica, donc la montagne des ours.
Oui,
Medvednica, les ours. Où en 1876, Hermann Bolle, l'architecte, a emménagé le plus prestigieux lieu de sépulture de la capitale. Sur 28 000 m², 300 000 personnes reposent, parmi elles des figures politiques et culturelles du pays. C'est très joli, un véritable musée en plein air. On peut y admirer de monuments funéraires exécutés par les plus grands noms de la sculpture croate.
Et s'il nous reste encore un peu de temps et de la force pour marcher encore un peu, allons faire un petit tour au jardin botanique, le plus récent des parcs de Zagreb.
Alors c'est une superficie de 5 hectares environ. Il offre en plein centre-ville un havre de paix. Environ 10 000 plantes l'habitent. Ce grand jardin à l'anglaise date de 1890, créé par un professeur de botanique. C'est un lieu de détente, mais en même temps, un lieu d'études et de recherche au sein du département des sciences de l'Université de Zagreb.
Je trouve qu'on peut dire qu'il fait vraiment bon vivre dans cette capitale, au milieu de toute cette culture, toute cette verdure. Et je suppose que pas de problème de pollution, comme le subissent les habitants de Pékin, par exemple.
Ah non, absolument pas. Et j'espère que nous vous avons donné envie d'y aller, de vous y promener, de vous en rendre compte par vous-même. Et que vous voudriez découvrir cette ville dont profitent ses habitants. Mais au fait, Christine, il me semble que tu avais une petite anecdote à nous dire à propos de la Croatie.
Oui, on peut dire qu'on fait appel presque tous les jours à quelque chose de croate. En fait, après la défaite de Napoléon, l'armée russe s'installe à Paris et un régiment de Croates vient l'y rejoindre. Et ces soldats croates portaient un foulard noué autour du cou. Et les Parisiens, quoique vivant des heures difficiles, étaient sensibles à la mode et se mirent à porter ce foulard noué à la croate qui est devenue la cravate, puis la cravate.
La cravate, tout simplement. Et les Croates l'appellent ça le krestavac.
Voilà.
Voilà, merci Christine et merci à tous de nous avoir écoutés. Alors à bientôt pour une prochaine émission Capitale.
Sur les ondes de Radio Grand Ciel.
Cette radio qui rapproche les hommes.
Sve su moje bivše ljubavi tužne, zar je sve to bio san? Usred kafane i gužve, opet sam ostao sam. Odsutne tvoje su oči, usne ne pružaju slast. Ne pitaj kada ću doći, prošlo je vrijeme za nas.